Il compte Beyoncé, Naomi Campbell, John Travolta et d'autres stars parmi ses clients.
J'ai pas été le meilleur, j'ai gagné des titres, mais jamais numéro un incontesté, quoi.
Et pourtant, en partant de zéro, il a atteint le sommet d'un milieu saturé par la concurrence.
À l'arrivée, je vends du brushing et de la coupe, comme des millions de coiffeurs. Donc il faut une valeur ajoutée.
Découvre ses clés pour attirer la clientèle de ses rêves.
Ce que je viens de dire là, ça vaut de l'or.
Dans cette interview, tu découvriras comment élaborer une stratégie relationnelle, trouver la clientèle idéale, rester fidèle à ses propres principes, mais aussi l'importance de l'entourage et de se créer un réel espace d'évasion. Nous sommes avec Claude Baruc, un Français qui a réalisé le rêve américain en faisant ce qu'il aime. Il a créé plusieurs salons de coiffure prestigieux à Las Vegas. Ses compétences, sa vision et sa passion lui ont permis de s'attirer la clientèle la plus prestigieuse au monde. En 2018, il gagne le titre de Celebrity Hairstylist des Hollywood Beauty Awards, en gros les Oscars de la coiffure. Nous avons été particulièrement touchés par sa passion et son humilité. Ses stratégies pour développer son entreprise sont de véritables pépites pour quiconque veut faire décoller son business. Si tu cherches à attirer la clientèle de tes rêves, tu vas vraiment apprécier cet épisode. Bienvenue, tu écoutes Business Tribe.
Avant de commencer cet épisode, j'aimerais te parler de notre nouveau partenaire Gandhi. Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu es entrepreneur, que tu veux accélérer ton business et passer au niveau supérieur. Peut-être même à l'international. Gandhi, c'est la plateforme pour réussir ton projet web depuis une seule interface pour gérer le nom de domaine et l'hébergement. Aujourd'hui, tu peux enregistrer ton nom de domaine en .eu et avec le .eu, tu donnes immédiatement à ton projet une dimension européenne et donc une ambition internationale. Quel que soit ton business et ton secteur d'activité, tu peux profiter dès maintenant d'une promotion sur l'enregistrement d'un nom de domaine en .eu. Alors passe à l'action en allant sur gandhi.net, gandhi.net. Et maintenant, place à l'épisode.
J'ai fait mes écoles primaires, collège, Avignon. Et puis après le collège, j'ai envie d'être coiffeur. Alors comment c'est venu, je sais pas. Je suis tombé dedans, la passion normale, je sais pas. Ou la coiffure qui m'a choisi, enfin bref. J'aimais tout ce qui était artistique, tout ce qui était mode. Et puis la coiffure en particulier.
T'as su très tôt que tu voulais être coiffeur?
Ouais, très tôt, ouais, 14-15 ans. Il n'y avait pas lieu de continuer à l'école, lycée, cursus traditionnel, lycée, université. Dès l'âge de 15 ans, je suis rentré en école de coiffure, dès que j'ai fini le collège en fait. De là, j'ai eu mon CAP. Cursus classique. Et puis, ma carrière, ça a été une succession de rencontres, en fait, qui m'ont toujours fait rebondir et aller plus haut. J'ai rencontré des gens, par le biais de mon école de coiffure, en fait, qui m'ont mis dans des compétitions de coiffure, en fait, tout simplement pour jeunes, quoi. C'est le genre de compétition, c'est un peu comme du patinage artistique. Il y a une note technique et une note artistique. Donc, voilà, c'est de la compétition.
Mais t'as quel âge quand tu gagnes ces concours?
J'avais 16 ans, 17 ans.
Tu as des potes comme ça de l'époque qui avaient un peu des rêves similaires aux tiens, mais qui bossaient pas assez pour...
Alors en fait, c'est pas des concours gagnés ou des titres qui vont automatiquement t'ouvrir des portes de ce que tu veux faire ou de tes rêves. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que j'ai pas été le meilleur.
D'accord.
J'ai pas été le champion du monde. J'ai pas été le champion de France. J'étais toujours bien placé. J'ai gagné des titres, bien sûr, au niveau départemental, au niveau régional. Très bien placé au niveau national, faisait partie des meilleurs Français souvent, mais jamais numéro un incontesté, quoi. Il y avait des gens qui étaient numéro un tout le temps en termes national. Tu savais que tu avais une, deux ou trois places qui allaient être compliquées à aller chercher, quoi. Donc tu arrivais quatrième, cinquième, sixième, de temps en temps tu arrivais à faire un exploit, à venir troisième, mais ça s'arrêtait là, quoi. Donc c'est pas le meilleur forcément. Qui va arriver au bout de ses rêves. C'est une question de chance, de stratégie, choix de vie, en fait, tout simplement. Donc, c'est ce
tu pourrais nous raconter d'ailleurs ce que tu me disais dans la voiture tout à l'heure, le passage avec Courchevel, du coup, ce qui s'est passé.
Ouais, donc bon, tous ces concours se font, évidemment, ça t'ouvre l'appétit. Et puis, à un moment donné, tu as envie de croquer le monde, en fait. Après, c'est un tempérament. Il y a des gens qui bougeront jamais, qui n'ont jamais bougé. Tant mieux, c'est très bien pour eux. Mais moi, j'ai envie de croquer le monde, j'ai envie de voir le monde. Je m'étais focalisé à l'époque. Évidemment que sur Paris, quand t'es en France, la capitale c'est Paris, c'est là où ça se passe.
C'était le rêve.
Je travaillais dans un centre d'Avignon, j'étais pas bien moralement, je savais pas quoi faire, j'ai envie de bouger, j'ai envie... Et puis une de mes clientes à moi s'aperçoit que je suis pas comme d'habitude, où j'ai toujours un tempérament toujours joyeux, sympathique. Et là j'étais pas bien, des jours où on est un peu down, quoi. Et elle me dit, je sens... Hein. J'ai dit, ouais, c'est... J'ai envie de partir à Paris, je sais pas comment faire, je suis jeune. Elle me dit, écoute, moi, chez mes beaux-parents, ils ont un salon de coiffure à Courchevel. Est-ce que tu connais Courchevel? À l'époque, je dis, pas vraiment, une station de ski. Mais alors, écoute, voilà, Courchevel, c'est une station de ski, mais prince, princesse, saoudien,
célébrité,
les plus grands businessmen de ce monde, d'Europe, clientèle très internationale. Et tous les clients internationaux que tu peux avoir à Paris, tu les as à Courchevel, de toute façon.
Voire limite plus, d'ailleurs.
Voire limite plus, bien sûr. Parce qu'à ce niveau-là, J'ai pas de concurrence. À Paris, on est des milliers de coiffeurs à vouloir avoir ces clients-là. Quand tu es à Courchevel, ça reste un village. Tu as 2-3 salons. Donc, tout le monde mange à sa faim, si j'ai envie de dire, quoi. Donc, moi, je connais pas trop Courchevel. J'y allais, pourquoi pas une première expérience. C'est logé, pourquoi pas. C'était pas très bien payé, mais allez, c'était pas l'argent qui comptait, quoi.
Tu peux en parler de ça, parce que je pense que c'est super important. Je vois des gens qui font l'erreur dans leur début de carrière de vouloir absolument gagner beaucoup d'argent tout de suite et qui, du coup, ont pas assez d'expérience ou se créent pas le réseau. Pourquoi tu le fais, toi, en fait, à ce moment-là ?
Alors, à moins de gagner au loto, pour gagner de l'argent, il faut investir. Au début de ta carrière, la seule chose que tu as à investir, c'est du temps. Tu n'as pas d'argent. Donc, ton investissement, c'est du temps. C'est de l'apprentissage. Ma cliente me dit, écoute, je te fais avoir un entretien d'embauche avec mes beaux-parents. Très bien. Donc, je monte les voir. C'était à l'époque sur Lyon. Ça se passe bien. OK, 1er décembre, tu démarres la saison à Courchevel pour l'hiver jusqu'au 30 avril. 4-5 mois d'hiver, à la neige, Courchevel. OK, pas de problème. Donc, j'arrive, appartement, colocation avec les collègues de boulot. Donc, ce que j'appelle mes années love story. Donc, moi, je suis arrivé. Je n'ai pas dormi pendant 5 mois.
C'est la fête tout le temps.
C'est la fête tout le temps. Et en fait, je me suis aperçu qu'en faisant la fête, j'ai ramené grave de clients. J'avais pris des contacts la nuit. Mais pour prendre des contacts la nuit et faire votre clientèle la nuit, je ne touche pas à l'alcool et d'autres choses. Là, c'est un secret que je dis là. Hein. Là, ce que je viens de dire là, ça vaut de l'or, hein. Surtout au milieu de la coiffure. Hein. Sobriété oblige.
Tu avais ton cerveau qui marchait, quoi.
Je suis en mode travail du matin au soir.
Même en boîte de nuit, du coup.
Surtout en boîte de nuit. En boîte de nuit, c'est de l'image. À l'arrivée, je vends du brushing et de la coupe. Comme des millions de coiffeurs. Donc, il faut une valeur ajoutée. La seule valeur ajoutée que je connais, c'est moi. Donc, c'est à moi de faire la différence. Donc, après, c'est une question de caractère. C'est une question de personnalité, c'est une question d'attitude. Ce qui fait que les gens vont avoir envie de venir avec toi. Et essayer ou se sentir en confiance d'essayer avec toi. Je commence à connaître du monde, à me faire un réseau énorme.
Là, on parle de célébrité.
Parle de célébrité. C'était des saisonniers aussi, hein, parce qu'il fallait... Tu ne peux pas choisir ta clientèle à cet âge-là, tu démarres.
Est-ce que tu es autorisé à donner quelques noms que les Français pourraient connaître ?
Oui, bien sûr. Ophélie Winter était une de mes premières clientes de célébrité, ce que je peux dire, il y a quelques années de ça. Naomi Campbell est devenue une de mes clientes. John Travolta, que j'ai eu récemment à Las Vegas. Karl Lagerfeld, que j'ai eu notamment aussi. Paris Hilton. On a eu Janet Jackson.
Voilà, ça suffit. Enfin,
voilà, il y en a eu d'autres, mais voilà. Enfin, j'arrive à Courchevel, la fête quoi. 20 ans, 19-20 ans, les copains, les filles, les bottes de nuit. À cette époque-là, c'était énorme parce que je me souviens attaquer le boulot le matin à 10h. Je sortais du boulot à 20h. Je partais chez moi, je dormais jusqu'à minuit. Minuit, je mettais le réveil, douche et j'allais en boîte. Jusqu'à 4-5h du matin. 4-5h du matin, selon comment la soirée s'était passée, je rentrais me coucher. Ou pas. Et après, j'allais au boulot. Voilà. Donc, et là, c'était des années folles, quoi. L'hiver se passe. Je me fais de la clientèle. Je me souviens qu'à l'époque, je coiffe Olivia Sulitzer, la fille du romancier Paul Lou Sulitzer, qui me dit je te présente à ma copine Jasmine Al-Fayed, qui était la fille de Mohamed Al-Fayed. Et donc, ça a commencé à créer du network, en fait. Ça a été un peu des gens, alors pas des célébrités, des stars du milieu du showbiz, mais
ou des gens du réseau.
Des gens du réseau et du milieu un petit peu
haut de gamme,
mondain, hein. Haut de gamme, voilà.
Est-ce que c'était vraiment lié à « je suis au bon endroit » ou est-ce que tu avais une manière de t'y prendre avec les personnes qui faisaient qu'elles avaient envie de connecter avec toi ?
Alors, j'ai envie de dire, il y a aussi une manière aussi de faire, une manière de voilà. J'ai quelques règles dans ma vie qui font que j'ai quand même une approche avec mes clients du fait de mon caractère, mais aussi du fait de mes valeurs qui fait que je suis un peu différent. Donc, il faut créer cette différence-là.
Tu pourrais décrire un petit peu, par exemple, si tu devais me donner une leçon rapidos, hein, de comment être à l'aise justement avec des personnalités, des célébrités, tu conseillerais ça comment ?
Ben, déjà, face à eux, je fais pas la groupie. Pas faire le fan.
Hein ? Ça donne quoi, par exemple, pas faire le fan ? Faut éviter quoi ?
Ouais, pas s'affoler. Ouais, j'adore ! Non.
J'essaye de me remettre dans le contexte. T'as 19 ans, t'es en boîte de nuit. Et là, imaginons, tu vois une personnalité. Ouais. Quand tu la vois, tu te dis quoi à l'intérieur ?
Ouais, super, c'est cool.
C'est cool.
C'est cool.
Mais t'as pas de stress ?
Non, j'ai pas de stress spécifique ou quoi que ce soit. Quand j'avais Naomi Campbell sur mon fauteuil, pour la première fois que je l'ai eue, j'ai pas de stress particulier à avoir. J'essaie de les faire sentir à l'aise, quoi. J'essaye de les
de les faire oublier qu'ils sont une star.
Ouais, et les prendre de manière normale, en fait.
Est-ce que tu as vu des potes un peu coiffeurs qui, pour le coup, justement, ont été trop en mode fan et ça n'a pas du tout connecté?
Ah, non, je ne connais pas de coiffeurs comme ça, ce que je sais. Mais après, moi, je sais que quand j'avais mes équipes avec moi, vos téléphones, sur le côté, je ne veux rien voir, quoi. Tant qu'on n'a pas la permission, tant qu'on n'a pas un rapport proche où ça vient de manière naturelle, il ne se passe rien. Moi, j'ai même eu des clients après du milieu des affaires, des gens extrêmement connus que je coiffais pendant des années et je ne savais même pas qui ils étaient. Je ne leur demandais même pas ce qu'ils faisaient dans leur vie, quoi. Pourtant, ils ne sont pas connus du grand public, mais dans le milieu des affaires, où quand tu les connais, tu dis « Ah ouais, c'est lui qui a ça, c'est lui le propriétaire de cette marque-là, quoi. Marque mondialement connue. » Moi, je ne pose pas la question. Je les prends normalement. Et je pense que ça fait partie d'une de mes règles qui fait que, voilà.
Parce que c'est ça qui est super intéressant, c'est qu'ils vont être prêts à mettre 100 fois plus cher sur la table qu'avec un autre coiffeur, parce qu'ils ont toute une expérience, tu m'en parlais dans la voiture, ils ont un accueil, ils ont une relation, plus la technique que tu vas apporter.
C'est
tout cet ensemble. Et les gens vont des fois se dire, mais je comprends pas pourquoi ils payent aussi cher une coiffure, mais c'est parce que ça va largement au-delà de juste payer une coiffure. En fait.
C'est tout un moment qui se paye, en fait. C'est un moment. Je veux dire, et ça, je l'ai compris très vite, en fait. Je l'ai compris très vite. Bon, alors, il y a aussi une côté compétence technique, artistique à avoir, qui est aussi indéniable. J'ai connu des coiffeurs peut-être meilleurs que moi.
Mais qui n'étaient pas bons dans la relation, par exemple.
Voilà. Après, c'est un ensemble. Ce n'est pas juste simplement le talent artistique et technique qui fait que tu vas être le plus reconnu et accrocher tes rêves. Peut-être que le rêve de certains coiffeurs, c'était d'être le coiffeur de star de sa rue, quoi, ou de son village. Et c'est tout autant respectable que d'être le coiffeur célébrité de l'année à Hollywood, quoi. Moi, je sais que ce que je voulais, c'était avoir quelque chose de gros, c'est faire quelque chose de gros. Donc, j'ai été pour l'accrocher, quoi. J'ai fait en sorte de l'accrocher. C'est une stratégie, c'était une route à ne pas déroger. Il y a des faits de vie qui font, et moi, je sais que j'en ai eu, qui font que bah, tu dévies de ton chemin, mais tu essayes de garder le cap et revenir dans ton chemin.
Comment on arrive à être retrouvé à Las Vegas?
Alors, après, tous mes copains et copines de Courchevel, je m'aperçois qu'ils sont connectés à Saint-Tropez. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je monte faire un hiver à Courchevel et de là, je partirai à Paris. Finalement, je n'ai jamais été à Paris de ma vie.
D'accord.
Voilà. Paris, je l'ai zappé toute ma vie, en fait. Donc, on verra peut-être, l'avenir me dira peut-être qu'un jour, mais... Donc, du coup, je trouve un boulot à l'hôtel Biblos, l'hôtel légendaire du centre-ville, du centre du village de Saint-Tropez, et qui a aussi un autre salon, un deuxième salon sur une plage. Je faisais 3 jours à l'hôtel et 3 jours sur une plage privée. Et je gagne encore moins d'argent, par contre. Parce que j'étais logé à Courchevel et que je n'étais pas logé à Saint-Tropez. Donc, j'avais un salaire minable qui passait pour les 50, 60, 70% du salaire dans un logement encore plus minable.
Ça te frustrait, ça, ou pas?
Non. Ça frustrait mes parents.
Tu disais, ils disaient, c'est pas normal, t'es exploité.
Ouais, non, mais ils disaient, faut que tu fasses quelque chose de ta vie, quoi. Rentre à Avignon. Alors, mes parents, quand je suis parti, les premières années, chaque fois que je partais en saison, ils refaisaient ma chambre en espérant que ma chambre allait être jolie, assez jolie.
Pour que tu restes.
Pour que je reste. Donc c'était rigolo, quoi. Mais très vite.
Chaque année, ils disaient, on va changer ça, cette fois ça va lui plaire.
Ouais, très vite, ils ont compris que, non. Pour eux, c'était tes coiffeurs, tu rentres, tu vas travailler chez Jean et David, chez Deux Sanges, ou tu te montes un petit salon dans le quartier.
C'est bien, quoi.
Et voilà, quoi. Et c'est top, quoi. Alors que moi, non, je m'amusais, j'étais content. Je commence à rencontrer des gens. Et là, très vite, on me dit, en dehors du salon, viens travailler sur mon bateau, viens travailler dans ma villa.
Là, t'es mieux payé, là.
Ah ouais, donc là, je faisais pas mal d'argent, ouais. Parce que là, c'était tout pour moi et des grosses sommes. Quand tu vas sur un bateau, c'était bien. Et donc, je m'arrondis mes fins de mois, comme tous les coiffeurs au monde, en fait, par un petit peu de petits billets black à droite à gauche. À part que là, c'est sur des yachts et dans des villas et dans des hôtels 5 étoiles de Saint-Tropez. Et je me fais encore du réseau, quoi.
C'est super intéressant. En soi, t'es très peu payé pour ton job principal, mais par contre, ça te connecte.
Ouais.
Et ça commence à porter ses fruits.
Ouais. Ouais, parce qu'en plus de ça, je commence à connecter avec des gardes du corps, je commence à connecter avec des concierges.
Ça, tu le fais volontairement, tu te dis?
Oui, bien sûr. À partir de là, je commence à créer du réseau. Et donc, c'est reparti pour un été de fête. on ne dort pas beaucoup, on s'amuse beaucoup. J'ai ces clients-là, connus. Alors, pas encore de stars cet été-là, le premier été. J'ai pas encore eu de stars cet été-là. Mais j'ai des gens, on va dire, du milieu des affaires, donc, comme je disais, Al Fayed et autres, et des gens, des villas, parmi les villas les plus luxueux. Jolies, les plus luxueuses de Saint-Tropez.
Si tu aimes ce podcast et que tu es intéressé pour participer à notre prochain événement business avec des entrepreneurs toujours plus inspirants, clique sur le lien dans la description de l'épisode pour t'inscrire ou recevoir plus d'informations.
Quand tu coiffes une personne, déjà à cette époque-là, quand on va chez le coiffeur justement, 200, la personne te parle, te pose des questions. Toi, tu parles pendant que tu coiffes à ce moment-là?
Ouais, je parle, mais j'arrive à jauger si mes clients veulent parler ou pas. À toi de voir, à toi de jauger en fait ce qu'ils sont prêts à dire, pas dire, à quel point ils sont prêts à parler.
Mais donc, tu le sens ça, toi?
Ouais, mais moi, je reste à ma place. Je suis un serviteur. À l'arrivée, je suis pas un coiffeur ou quoi que ce soit. Je suis un serviteur. Je suis là pour les servir. Donc, je reste à ma place. C'est ça aussi, c'est une clé de la réussite parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne restent pas à leur place. Alors, sous prétexte qu'on devient coiffeur de gens un peu célébrités ou le serveur des gens célébrités ou le cuisinier ou quoi que ce soit, les gens dépassent la limite après. Et ça, c'est une...
Et d'ailleurs, grande... c'est ce qui tue ton réseau, j'imagine, si tu commences à trop...
Ah, c'est ce qui tue ton réseau. Je ne suis pas du même monde que ces gens-là. On fait pas partie du même monde. Et c'est très bien comme ça. Et je suis très bien comme ça, quoi. Je suis marié, j'ai une femme, deux enfants... ma petite vie à la maison peinard, je suis content. Voilà. Donc moi, quand je suis avec ces gens-là, sur leur bateau ou quoi que ce soit, je ne fais pas l'impressionner. Et puis, je n'essaye pas de devenir leur meilleur ami et devenir un amuseur de la galerie. Quoi. Voilà. Ça, c'est très important.
Comment tu trouves le curseur, justement, de savoir, tiens, je vais lui raconter une blague, ou je vais lui dire quelque chose, ou alors non, je ne vais rien dire?
Après, ça vient au feeling. Hein. Ça vient, après, alors oui, alors, je ne dis pas, il y a des clients qui sont devenus des très, très bons amis à moi. Aujourd'hui, on se permet des blagues, on s'appelle à n'importe quel moment. Si j'ai un souci, je les appelle, ils ont un souci, ils veulent un renseignement, ils m'appellent. Parce que là, au bout de 15 ans, maintenant, presque 20 ans, à graviter dans ce milieu-là, oui. Donc, j'ai une relation, mais ça reste toujours pro quand même. Les premières approches, tant qu'on n'a pas vraiment des années ou des mois de complicité, il faut faire très attention.
Tu es plutôt dans une approche, entre guillemets, à être en relation avec eux, mais tu restes à ta place et, entre guillemets, tu les laisses plutôt venir vers toi?
Tout à fait. Je provoque rien. Je laisse tout venir. À la fin du premier été, dans mes clientes, notamment Jasmine Al-Fayed, je reçois un coup de fil au mois d'octobre, donc un mois après la fin de l'été, quoi, après la fin de la saison, du gros de la saison. Et elle me dit, Claude, j'ai besoin de mes mèches. Est-ce que tu peux venir au Ritz à Paris me faire les mèches? Et elle prend l'habitude de m'appeler, de me faire voyager pour elle. Et je commence à voyager privé pour des clients haut de gamme, quoi. Je commence à me dire, tiens, cette clientèle-là, elle est prête à tout, en fait. Et ça m'a donné des idées, quoi. Donc, continuer à travailler mon réseau. Et puis, à un bout d'un moment, je pouvais plus aller au salon parce qu'il y avait trop de demandes, en fait. J'ai commencé à rencontrer des hommes d'affaires, parler avec mes clients qui sont des hommes d'affaires.
Ils t'ont façonné ton cerveau.
Et à ce moment-là, je me dis, moi aussi, quoi, ça y est, quoi, je veux faire de l'argent maintenant. Les nanas, les copains, les copines et tout, c'est stop.
Ça illustre bien à quel point qui tu côtoies,
oui,
détermine tes pensées et ta vie.
Vraiment, après, pour être terre à terre et être d'un pragmatisme froid et cinglant, comme on dit, parfois c'est dis-moi combien tu as, je te dis qui tu es, quoi. Ok, l'argent ne fait pas le bonheur, j'ai jamais été pour l'argent, mais à un moment donné, faut que tu sois quelqu'un, quoi. Donc, pour être quelqu'un, il faut entreprendre. Dans mon milieu, hein, je parle dans mon expérience. Dans certains milieux, pas tous, mais c'est la réussite qui...
On te mesure à ta réussite.
Ouais, on te mesure à ta réussite.
Donc, tu réalises qu'en fait...
Et je le réalise qu'à un moment donné...
Si tu n'as pas une marque, si tu n'as pas un nom, si tu n'as pas une réussite, on te prendra moins sérieux sur le long terme.
Ouais, parce que moi, quand j'ai commencé à faire du freelance, je gagnais beaucoup d'argent. Mais j'avais envie de m'établir. J'ai envie d'avoir mon nom sur une vitrine. J'ai envie d'avoir mon nom dans les magazines. Et puis, j'ai envie de recevoir les gens. Ils me recevaient chez eux. Moi, cette fois-ci, j'ai envie de les recevoir chez moi. J'ai ouvert un salon. Et puis deux, et puis trois. Et puis là, j'ai eu les stars qui sont arrivées. Naomi Campbell, des membres du groupe U2 quand ils étaient à Saint-Tropez. Des actrices américaines, genre Tara Reid, Carla Gerfeld, Jean Rock, Ophélie Winter, Patrick Bruel venait dans mon salon à Saint-Tropez, à Courchevel aussi, avec ses enfants. Catherine Zeta-Jones, son mari, Michael Douglas, tous ces gens-là, quoi, que j'ai eu, quoi. Je savais que j'allais faire quelque chose. J'avais ce truc, j'avais cette envie, quoi, des petits, de faire quelque chose. Même avant que je sache que je voulais faire coiffeur, mais je savais que je voulais faire quelque chose. Si aujourd'hui, tu vas faire une émission et que tu parles à ma famille, hormis mes parents, et mes frères, mais tu parles à tous les gens qui sont autour de moi, mes profs que j'avais à l'école, en cours élémentaire, ou les copains et tout que j'avais à l'époque, il n'y en a pas un qui aurait misé un franc sur moi, quoi. Donc, si tu veux, mes premières années d'école ont été très compliquées pour moi. Donc, j'ai pris du retard. Donc, après.
Et donc, du coup, ouais. Par conséquent,
donc, par conséquent j'ai redoublé.
Il y a des gens qui ne croyaient pas en toi.
Ouais, j'étais, voilà, le gamin, il a un CE2, il a 2 ans de retard. Il a redoublé 2 fois, je suis en CE2, frère.
Ça m'inspire de, que tu ouais. t'en parles, de dire. On n'est pas condamné à ce que les autres pensent de nous.
Non,
quoi.
Alors, moi, j'avais des cousins, des cousines, des trucs. C'est... Oh, ne lui parle pas, lui, de toute façon, il ne comprend rien, il a redoublé 2 fois déjà. Ça, je l'ai pris dans la gueule, ça.
Tu te disais quoi, que tu ressentais quoi?
Bah, beaucoup de peine. Couplé à ça, mon père perd son boulot il a 45 ans à l'époque. Aujourd'hui, quand tu es au chômage, les gens, ils s'en foutent, quoi. Mais mon père, c'est quelqu'un qui a bossé toute sa vie, depuis l'âge de 13 ans, supporter sa famille, tu vois, ramener le salaire et donner le salaire à sa mère pour élever tous les frères et sœurs qu'il avait. Donc moi, je vois mon père pas bien à cette époque-là. J'absorbe tout. Il devient un peu, lui, comme moi je le suis en termes d'école, il devient lui la même chose.
Le loser de la famille. Hein.
Ouais, alors qu'il n'est pas du tout. Bien au contraire. J'en trouve extrêmement parce qu'il y a une différence qui va se faire entre moi et mes cousins, par mes grands-parents, par ma grand-mère à l'époque.
C'est la famille, ouais. Famille loser quoi, dans la tête de ta...
Ouais, c'est ce qui a été aujourd'hui ma bénédiction dans ma vie. Quoi.
C'est génial que tu ouais. le vois comme ça et que tu en parles
ouais.
un peu.
Ouais.
Au final, ça t'a créé un feu de...
Ah bah ça m'a créé une rage. Je me compare à mon héros favori, c'est-à-dire Rocky. Quoi. Je fais pas le fan devant les stars quand ils viennent s'asseoir. Mais alors si Stallone il vient là, j'aurais du mal à me contrôler. Je pense que je le préviendrai déjà, il serait prévenu, parce que là je pense que j'aurais du mal à me contrôler. Voilà, c'est le seul. Je connais tous les films par cœur, tu peux me sortir n'importe quelle parole.
C'est quoi ta scène favorite pour avoir le feu intérieur là?
Dans Rocky 2, quand sa femme sort du coma, lui apporte leur enfant et qu'elle lui dit vas-y fonce. Elle voulait pas qu'il se batte avec Apollo et qu'à ce moment-là elle dit vas-y fonce. Gagne.
Tu ressens quoi là quand tu vois
ça? Ah bah là c'est un coup de feu là, c'est j'ai l'impression d'être dans un canon et c'est moi la catapulte quoi, c'est moi le boulet quoi.
Cette scène là tu penses que ça t'a aidé à réaliser
ouais.
tout?
Ouais bien sûr, c'est bien d'avoir des héros, tu vois, faut s'identifier à ces héros parfois, moi ça m'a beaucoup aidé. Et puis la scène dans Rocky 3 quand sa femme lui fait la morale, il perd son premier fight contre Clubberland, quand son coach lui dit que ses premiers combats avaient été un peu arrangés pour le prêt, donc il ne sait plus où il en est. Et elle lui dit, bah, va te battre contre lui une bonne fois pour toutes, cette fois-ci sans excuses. Et tu verras. Let's go. Ouais, j'ai peur. Mais va affronter ta peur. Moi, quand je suis venu à Vegas, ouais, j'avais peur. J'avais 2 salons en France.
T'as tout arrêté.
J'ai tout arrêté. J'avais ma fille aînée qui avait 2 ans et demi. On a lâché les familles, les parents, les grands-parents. Et on est venu, quoi. Ça faisait 15 ans que j'étais sur Saint-Tropez-Courchevel, que j'avais gravi échelon par échelon et que j'étais un peu le... Voilà, tranquille. J'attendais ma retraite, j'avais mon petit succès tranquille.
Tu aurais pu rester comme ça
jusqu'à la fin. Ouais. Et là, j'ai envie de me mettre un challenge, j'ai envie de voir, ok, qu'est-ce que je vaux vraiment en dehors de ma zone de confort. Si ça s'était mal passé, tant pis. Mais au moins, ça aurait été comme dans Rocky 3, le mérite d'être vrai et de savoir où est-ce que j'en étais. Quoi.
J'ai vu des gants de boxe dans ta voiture d'ailleurs.
Ah, parce que je boxe, je fais 2 entraînements par jour. Je rêve de faire un fight, donc j'ai un coach préparateur physique que je vois tous les matins et mon coach de boxe que je vois tous les après-midi.
Ça t'aide aussi.
Ça m'aide aussi mentalement, ça me permet de sortir aussi du boulot, du stress du boulot et d'avoir un autre centre d'intérêt à côté. Donc ce qui me permet de totalement sortir du boulot, aller sur quelque chose d'autre pour mieux revenir après quand sur le boulot quoi.
Si tu as aimé ce podcast et ce type de contenu avec des entrepreneurs au parcours incroyable, alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, on a créé une vidéo qui recense les 6 clés indispensables pour scaler ton business.
Donc aujourd'hui, j'ai développé tout un set de techniques pour aider les entrepreneurs que j'accompagne à bien sûr garder la foi, conserver cet optimisme de « je vais y arriver, je peux le faire, j'y crois », mais en même temps, être capable de manière, ce qu'on pourrait appeler un pragmatisme pessimiste ou le pessimiste pragmatique, c'est-à-dire voir les obstacles et les anticiper de manière le plus calme, centrée et stratégique possible. Charlie Munger a ce qu'il appelle la technique de l'inversion. La technique de l'inversion, c'est de faire presque contre-intuitivement l'opposé que de visualiser que ça va bien se passer.
Si tu veux découvrir ces 6 clés contre-intuitives qui vont te permettre de booster ton business, regarde la vidéo gratuitement en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode.